Et donc on voit que dans l'éternité passée ou dans l'éternité future, Dieu a souhaité habiter avec l'homme. C'est ce qui nous est dit dans les Proverbes, notamment à travers la sagesse, qui est une image du Seigneur, qui disait qu'il se réjouissait en la partie habitable de sa terre. Et puis, par rapport donc à ce plan d'éternité passée, dans l'éternité future, on voit que dans l'Apocalypse, il nous est dit, on le verra dans plus de détails par la suite, que l'habitation de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux. Donc on voit vraiment que depuis le début jusqu'à la fin, si tant est que dans nos moyens limités, on puisse dire qu'il y a un début et une fin, puisqu'on sait que c'est infini, eh bien il y a ce plan de Dieu qui traverse tout le temps. Et c'est un témoignage de l'amour de Dieu qui désire que, effectivement, les hommes deviennent habitants du ciel, d'un côté, mais qui désire lui aussi habiter parmi les hommes. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va voir. Et personnellement, pourquoi ce sujet m'a interpellé, c'est à travers différents passages de la parole, notamment dans la relation que Moïse a pu avoir avec Dieu, quand on voit qu'il lui parlait comme un ami face à face. C'est difficile à percevoir du fait de la sainteté de Dieu, de voir Moïse qui pouvait quand même parler comme un ami. Et puis alors l'image du buisson ardent, on y reviendra peut-être à la fin, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, mais éventuellement, s'il nous reste un peu de temps à la fin, on reviendra sur le buisson ardent qui est une belle image aussi de ce plan de Dieu. Et puis on voit qu'effectivement, j'étais très touché aussi, mais déjà depuis plusieurs années, par ce verset de l'Apocalypse qu'on a eu juste au-dessus, comme quoi vraiment Dieu a ce désir, Dieu a au fond de son cœur cette volonté d'habiter avec l'homme. Et puis, alors aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas très pratique, je ne vais pas vous dire comment faire ci, comment faire ça, ou etc. Non, je pense que mon propos, c'est plutôt d'essayer de percevoir, comme je disais au début, quelque chose de ce plan de Dieu, de cet amour immense qu'il a eu pour nous, pour que finalement, dans nos cœurs, nous en soyons remplis et nous puissions, d'une certaine façon, lui rendre l'adoration en retour. Alors, ce que je vous propose, donc ça peut s'articuler en fait en deux parties. On voit qu'au milieu, il y a la croix de Christ, il y a la mort de Jésus. Et avant, on voit que Dieu va habiter sur terre au milieu de nous. Mais après la croix de Christ, c'est ce qu'on verra, Dieu habitera en nous. Et donc c'est un élément absolument fondamental, absolument clé, ce que Christ a réalisé sur la croix pour nous et par rapport à ce plan de Dieu qui est d'habiter en l'homme. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'avant, donc dans la période où Dieu habite au milieu de nous, c'est ce qui se passe en Éden, c'est ce qui se fait à travers le tabernacle, puis la construction du temple, et puis on verra donc effectivement ce qu'a réalisé le Seigneur, et puis ensuite, on verra ce que ça nous a acquis en tant que pécheurs, en tant qu'Église, et puis ce vers quoi il nous promet de nous destiner à travers sa cité céleste. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que Dieu, il nous est dit dans quelques versets, que Dieu, donc dans 1 Timothée 6, Dieu habite une lumière inaccessible. Donc c'est quelque part un infini de l'espace. Et puis il nous est dit aussi que Dieu habite l'éternité. C'est dans Ésaïe. Ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité. Et donc d'une certaine façon, dans notre espace, nous avons les trois dimensions de l'espace, puis nous avons le temps. Eh bien Dieu, il habite, comme on le voit, une lumière inaccessible. C'est une image de l'infini de ce qu'on peut percevoir par rapport à nos dimensions de l'espace. Et il habite l'éternité, donc l'infini aussi par rapport à l'autre dimension qui est le temps pour nous. Puis il y a probablement d'autres dimensions, mais pour nous, dans notre esprit limité, c'est déjà pas mal quand on arrive à percevoir ces deux-là. Et puis ce qu'on voit aussi dans le psaume 115, c'est que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils des hommes. Donc la terre, c'est pour l'homme. Et c'est pour ça que si Dieu va habiter avec l'homme, quand l'homme est sur la terre, Dieu doit habiter sur la terre. Alors en Éden, à la création, il ne nous est pas dit explicitement que Dieu habitait le jardin d'Éden. On voit qu'il y avait en tout cas une communion avec Adam et Ève, puisqu'on voit que la voix de l'Éternel Dieu se promenait dans le jardin au frais du jour. Donc on voit que Dieu est présent. Il ne nous est pas dit encore une fois qu'il habitait à proprement parler, mais il est là. Et puis, ce qui se passe, c'est un point clé aussi dans notre histoire, c'est que il y a la chute, il y a le péché originel, et du coup, Dieu, dans sa nature sainte, ne peut plus être avec l'homme. L'homme s'est séparé. Et cette désobéissance, finalement, c'est ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui va se poursuivre tout au long de l'histoire entre l'homme et l'habitation de Dieu. Et le fait que donc l'homme s'est séparé de Dieu. Et puis ce qu'on voit, c'est que juste une image qui va revenir aussi, on va voir dans les différentes étapes, c'est que Dieu place des chérubins à l'entrée du jardin d'Éden pour en protéger l'entrée. L'homme n'a plus accès, en quelque sorte, à Dieu. Mais on voit que Dieu, comme on le disait, on peut passer au slide suivant, a ce désir, après l'Égypte, après la sortie d'Égypte, il a ce désir d'habiter au milieu de son peuple. Et c'est ce qui est dit dans l'Exode 29, au verset 45, « Et j'habiterai au milieu des fils d'Israël, et je leur serai Dieu. Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Et on va voir tout ce que la façon dont Dieu va se manifester, va pouvoir habiter au milieu de son peuple. Alors, de nouveau, mon propos, ce n'est pas de donner beaucoup d'éléments sur le tabernacle, j'en serais bien incapable, mais c'est juste quelques éléments qui sont assaillants par rapport justement à notre sujet aujourd'hui. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que le fait que Dieu puisse envisager d'habiter au milieu de son peuple, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'à la sortie de l'Égypte, il y a dû avoir la Pâque. Il y a dû avoir ce sacrifice qui a permis finalement que le sang coule, et quelque part en figure montre qu'il fallait que le sang coule pour que Dieu puisse envisager de revenir habiter parmi son peuple. Et puis on voit alors ensuite que dans toute la construction du tabernacle, donc qui a été construit un an à peu près après la sortie d'Égypte, il y a une obéissance absolument formidable de Moïse et de tous ceux qui l'ont construit par rapport à ce que Dieu avait fourni en termes d'instruction. Puisqu'il nous est dit à 18 reprises que Moïse fit les choses comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Donc c'est pour montrer que quelque part, Moïse et ceux qui l'ont aidé ont respecté scrupuleusement, ont obéi scrupuleusement à ce que Dieu leur avait indiqué. Et c'est pour ça, finalement, que dans Exode 40-33, ce qu'on peut lire, alors je suis désolé, c'est peut-être un peu petit, mais « Et Moïse acheva l'œuvre, et donc le tabernacle. Et la nuée couvrit la tente d'assignation, le tabernacle, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Donc on voit que ça y est, Dieu peut revenir habiter au milieu de son peuple et de toute sa gloire habiter finalement au milieu de lui. Mais on voit aussi qu'on ne pouvait pas se tenir complètement dans sa présence du fait de sa sainteté. Et c'est ce qui nous est dit quand Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation quand Dieu est venu l'habiter. Et puis alors si on va dans un peu plus de détails, dans la façon dont les choses ont été faites et dans la façon dont se manifeste l'habitation de Dieu au sein du tabernacle, on voit qu'il y a une partie du tabernacle qui est le lieu très saint. Alors peut-être qu'on peut juste aller sur la slide suivante. Voilà, donc là on voit un petit peu sur la droite donc toute la cour, le parvis, puis on voit au milieu le lieu saint, et puis tout à fait à gauche, il y a ce qu'on appelle le lieu très saint. Et Dieu se manifestait quand il venait au milieu de son peuple dans le lieu très saint. Et on voit qu'entre le lieu très saint à gauche et le lieu saint au milieu, il y a ce voile, un voile qui sépare, qui les coupe en deux. Et l'arche était dans le lieu très saint. Et alors, ce qu'on voit, c'est que en fait, dans ce lieu très saint, où se trouvait vraiment donc la présence de Dieu, l'habitation de Dieu, l'accès était extrêmement limité. L'accès, Moïse pouvait y aller, comme de façon privilégiée, et Aaron, ou le souverain sacrificateur, une fois par an, était aussi autorisé à y aller. Mais pour y aller, Aaron, le souverain sacrificateur, prenait de l'encens et prenait le sang, du sang, de sacrifice pour le péché, pour pouvoir finalement entrer dans la présence de Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas tolérer que l'homme rentre simplement comme cela. Et puis, Ce qu'on voit ensuite, c'est que au milieu donc, de ce lieu très saint se tenait l'arche. L'arche, c'était en fait une image déjà de Christ. Alors l'arche, c'était un gros coffre finalement, qui était fait de bois et d'or, et qui symboliquement représente ce qu'a été le Seigneur dans sa vie sur terre parmi les hommes. Avec le bois qui nous parle, alors là c'est plus symbolique, mais de cette humanité et l'or pur, c'était de l'or pur, qui là nous parle de la gloire de Dieu. Et donc cette alliance du bois et de cet or pur dans la construction de ce coffre, de cette arche, eh bien cela nous parle de ce qu'a été le Seigneur pour Dieu en étant parfaitement homme et parfaitement Dieu quand il est venu sur la terre. C'était déjà une image. Et puis ce qu'elle contenait, donc dans l'arche, on avait la manne, le bâton d'Aaron et puis les tables de la loi. Et puis sur l'arche se trouvait le propitiatoire. Alors le propitiatoire, c'était un plateau, un couvercle de l'arche. Et puis c'est quand le souverain sacrificateur entrait, il en aspergeait justement, il l'aspergeait avec le sang. Et puis il y avait des chérubins qui regardaient cela. Et puis, du coup, ce qui est important de voir, un petit détail aussi par rapport, on a parlé dans le jardin d'Éden de ces chérubins qui bloquaient l'accès hein, de retour finalement, puisque l'homme s'était séparé de Dieu à travers la désobéissance. Là, on a dit qu'il y avait un voile aussi qui bloquait l'accès au lieu très saint. Et sur ce voile, mais non seulement sur ce voile, mais sur les trois côtés, il y avait aussi des chérubins. Des chérubins qui étaient sur ces éléments-là, plus des chérubins aussi sur le toit du lieu très saint. Il n'y en avait pas sur le sol, par contre. Et ça nous montre, en fait aussi, en quelque sorte, eh bien, que l'accès à Dieu était protégé, d'une certaine façon. Sauf sur le sol, puisque le sol, Dieu habitait vraiment sur la terre. Et c'est puissant de voir que, finalement, c'est aussi, dans ce symbole-là, cette volonté de Dieu d'habiter sur la terre, d'habiter parmi son peuple. Et puis, donc, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, le lieu très saint, donc l'accès à Dieu était limité. Et une remarque aussi, l'arche qui symbolisait finalement la présence de Dieu, puisque c'est là que Dieu venait se trouver, eh bien, quand le tabernacle, quand le peuple se déplaçait dans le désert, on sait qu'à peu près 41, en tout cas au moins 41 fois, il a dû se déplacer dans le désert. Eh bien, quand on prenait l'arche, il fallait la recouvrir d'un premier drap. Et sur ce premier drap, il y avait aussi des chérubins, puis d'une peau de bête, et puis de nouveau d'un autre drap. Et puis, on ne pouvait pas la porter, on ne pouvait pas la toucher, l'arche. En fait, ce qu'on voit, peut-être au slide précédent, c'est qu'il y avait des barres qui passaient dans les anneaux et qui permettaient de la porter. Et donc, on ne pouvait toucher et la porter qu'à travers ces barres. Et en fait, il nous est rapporté que du temps de David, l'arche donc, avait dû être mise sur un chariot qui était tiré par des bœufs, mais les personnes qui s'occupaient de cela avaient omis de mettre ces barres, qui normalement devaient rester. Et il y en a un, à un moment donné, le chariot a glissé, les bœufs ont glissé, et il y a une personne, qui s'appelle Ouza, qui a essayé de la retenir et qui a touché l'arche. Il a été consumé instantanément. Dieu l'a tué. On ne pouvait pas toucher la présence de Dieu. On ne pouvait pas avoir cet accès à Dieu. Dieu était saint. Donc, voilà par rapport à la première manifestation de Dieu au milieu de nous, à travers le tabernacle. Et puis, on voit ensuite que, encore le suivant, Dieu a voulu avoir une demeure plus permanente au sein du pays promis, à travers le temple. Et puis de la même façon, on voit que ceux qui ont construit le temple ont aussi suivi scrupuleusement ce que Dieu a recommandé, et ce qui a permis, de la même façon que pour le tabernacle, c'est ce qu'on lit dans le livre des Rois, au chapitre 8, « Et il arriva que, comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, une fois qu'ils avaient terminé la construction du temple, la nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir, ça fait écho avec ce qu'a vécu Moïse, pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Donc on voit que de nouveau, Dieu maintenant a une habitation à travers ce temple qui a été construit et qui peut l'habiter, puisqu'effectivement, l'homme a fait preuve d'obéissance et a suivi scrupuleusement, peut-être bien à son insu, mais toutes les recommandations et qui ont permis finalement à Dieu d'acquiescer et de pouvoir venir habiter de nouveau au milieu de son peuple, dans le pays promis, au sein du temple, et de nouveau dans le lieu très saint, puisque ce qu'on retrouve de nouveau dans l'architecture du temple, c'est qu'on voit bien qu'il y a de nouveau le sanctuaire, puis on voit bien, ça s'appelle donc le lieu très saint, ici il le mentionne Saint des Saints, où aussi les éléments qu'il séparait, il y a bien un voile épais qui séparait ce lieu saint et le lieu très saint, et dans le lieu très saint, il y avait de nouveau l'arche qui était là. Et c'est là que Dieu aussi se manifestait, c'est au cœur de ce lieu très saint qu'était sa présence, finalement. Sur la terre, il était bien sûr, de façon générale, Dieu est partout, hein, je veux dire, mais dans sa volonté de rencontrer l'homme et d'habiter avec lui, c'est au niveau de ce lieu très saint qu'il se trouvait. Et ce qu'on voit donc, c'est que de nouveau, c'est un accès limité, c'est une habitation non durable. Il nous est même dit dans un verset dans les Rois que l'Éternel a dit qu'il habiterait dans l'obscurité profonde. J'ai bâti toutefois, c'est Salomon qui dit, hein, j'ai bâti toutefois une maison d'habitation pour toi, un lieu fixe pour que tu y demeures à toujours. Alors que Dieu habite, comme on l'a vu dès le départ, cette lumière inaccessible, on voit que dans son habitation sur la terre, il habite dans l'obscurité profonde, dans cet endroit-là, avec cet accès très limité. Et puis on voit ensuite, alors on ne va pas s'étendre, mais que l'homme s'est de nouveau détaché, s'est séparé. On voit que le temple a été abandonné, la maison a été détruite, qu'elle a été reconstruite du temps de Zorobabel. Mais voilà, la gloire de l'Éternel n'était plus dans le temple. Donc quelque part, il y a eu de nouveau, ça ne pouvait pas durer sur la longueur. Et donc si on revient, voilà. Si on revient sur le point de situation, si on peut dire, on voit bien que Dieu a pu se manifester au milieu de son peuple, mais l'accès a toujours été limité du fait de la nature de l'homme. On voit qu'il fallait aussi, pour les quelques-uns, pour le seul même, qui pouvait rentrer dans le lieu de sa présence, le lieu de son habitation, c'était très limité, une fois par an, et puis c'était avec le sang du sacrifice pour le péché. Parce que Dieu reste saint, il ne peut pas tolérer le péché. Et puis on voit que finalement, pour que Dieu puisse habiter sur la terre, il fallait qu'il y ait de l'obéissance. On voit que dans la construction du tabernacle, dans la construction du temple, c'est en respectant scrupuleusement au détail près, hein, au centimètre près, tous les détails du plan que Dieu a pu acquiescer, a pu venir habiter, mais on voit que l'homme, rapidement après, a désobéi. Donc on voit qu'il y a cette notion aussi d'obéissance qui est importante. Et puis alors là, dans l'histoire, finalement, il y a ce point central, c'est ce que va réaliser le Seigneur Jésus. Alors, on peut passer au slide suivant. Alors, avant d'aller dans le détail, ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus s'est rendu dans le temple. C'est ce qu'on lit dans Jean 2. Alors, je vous propose de lire, parce que c'est quand même intéressant de se dire que Jésus est venu dans cette habitation, dans ce qui devait être l'habitation de Dieu sur la terre. Alors, Jean 2, au verset 13... La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez ceci, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà avant de réaliser cette œuvre à la croix, Jésus est le point de rupture à la fois, par rapport, et puis ce point de transition où il dit que finalement, en image, il ne va plus falloir venir avec des sacrifices, avec des offrandes très physiques, mais par la prière dans son temple, par Jésus, qui lui, finalement, va incarner pleinement, c'est ce qu'on a vu à travers l'image de l'arche, hein, l'habitation de Dieu sur la terre, à travers son corps. C'est ce qu'il nous a dit, hein. C'est lui-même le Seigneur qui le dit, il parlait du temple de son corps. Et donc, c'est là, dans toute... en tout cas, pour ma part, je n'arrive pas bien à le mesurer, mais je pense que vraiment, là, c'est la plénitude de l'habitation de Dieu qui, à un moment donné, est là. C'est Jésus au milieu de nous, dans son corps, parfaitement Dieu, parfaitement homme, et qui arrive en rupture de tout cela, ou des limitations qu'on a vues juste avant. Et ce qu'on va voir, donc, c'est que par rapport à son chemin, puis par rapport à son œuvre à la croix, eh bien, toutes les limitations qui existaient précédemment tombent les unes après les autres. On voit la puissance de l'œuvre de Jésus à la croix. Dans le plan de Dieu, depuis l'éternité passée jusque dans l'éternité future, on voit que Jésus, à travers l'œuvre de la croix, accomplit parfaitement le plan de Dieu dans sa volonté d'être avec les hommes. Ce qu'on voit, c'est que c'est d'abord un sacrifice parfait. C'est ce qui nous est dit. Un souverain sacrificateur, donc Jésus comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, est plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, dans Hébreu. Et puis, ce qu'on voit ensuite, c'est que désormais, à travers l'œuvre de la croix, on a un accès à Dieu qui est complet. Ce qu'on voit, en fait, ce qui est saisissant, vous vous souvenez de ce voile avec ses chérubins qui bloquait cet accès à Dieu. Et ce qu'on peut lire, c'est ce qui se passe à la croix. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le voile qui nous séparait de cette présence de Dieu, de cet accès à tous, puisque l'accès était limité à quelques-uns, le voile est déchiré. De haut en bas, Dieu vient du haut en bas vers l'homme. Et ce qu'on voit aussi, alors ça c'est absolument magnifique, on voyait qu'on ne peut pas voir la face de Dieu, mais quand même ce qu'il nous a dit dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, « Or nous tous, contemplant ta face découverte la gloire du Seigneur, désormais on peut voir, nos yeux sont ouverts. » Cet accès, alors qu'il y avait ce voile qui ne nous permettait pas de le voir, il y avait ces chérubins qui empêchaient d'entrer, eh bien nous pouvons voir sa gloire à face découverte. Et ce qu'on voit pour cela aussi, c'est que, donc on avait parlé de cette obéissance, et on voit à quel point finalement le Seigneur, pour réaliser tout cela, a été parfait et a été obéissant, puisqu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On voit que cette notion d'obéissance, elle est de nouveau là, et réalisée, accomplie finalement pleinement à travers l'obéissance du Seigneur jusqu'à la mort de la croix. Et puis, enfin, ce que ça change pour nous aussi, vous souvenez, il y avait dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Et finalement, le peuple de Dieu... eh bien, devait respecter toute la loi, toutes les règles. Et comme il n'en était pas capable, c'est bien pour ça qu'il y avait ce sacrifice une fois par an pour le pardon du péché. Eh bien là, ce qui nous est dit, c'est que le Seigneur n'a pas aboli la loi. C'est ce qu'il nous a dit dans Matthieu 5, au verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » On voit finalement la loi qui était dans l'arche, hein, qui était vraiment cette image de la présence de Dieu, donc c'était vraiment, ça faisait partie intrinsèque de la sainteté de Dieu, le respect de la loi, eh bien Jésus l'a accompli pleinement. Jésus l'a accompli. C'était impossible pour un homme comme nous de l'accomplir, mais Jésus, parfaitement Dieu, parfaitement homme, lui l'a accompli. Et pour nous, ça la change tout, puisque aujourd'hui, c'est ce qui nous est dit dans Romains 6, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et donc, c'est une œuvre qui est absolument magnifique de voir ce que le Seigneur, dans tous les détails, et j'ai des yeux bien limités, il y a probablement des centaines d'autres qu'on peut voir, qu'on ne peut peut-être pas imaginer non plus dans tout ce qui s'est joué à la croix. Mais une des conséquences, finalement, de tout cela aussi, eh bien, c'est que nous-mêmes, nous devenons, à travers l'Esprit Saint qui habite en nous, le temple de Dieu. Et c'est ce qui nous est dit dans Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? C'est absolument fantastique de voir finalement la puissance de l'œuvre du Seigneur. Alors, on peut passer au suivant. Alors, effectivement, nous avons désormais plein accès à la présence de Dieu, puisqu'il habite en nous. Il habite en nous. Et finalement, ce qu'on peut se dire, j'imagine que si j'avais été juif à l'époque du tabernacle, à l'époque du temple, j'aurais été quelque peu frustré, peut-être, de ne pas pouvoir aller voir ce qui se trouvait, ce qui se passait dans ce lieu très saint. Mais pour nous, la situation est différente. Nous pouvons entrer à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, que nous soyons aussi dans des états de joie, de tristesse, de péché ou de communion, nous avons accès à cette présence de Dieu. Donc approchons-nous vraiment, profitons de cela, puisque vraiment l'accès est direct. Dieu voit le sang de Jésus sur nos vies et nous permet finalement par son esprit d'habiter en nous. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est notre choix, mais Dieu ne souhaite pas cohabiter dans notre cœur. Il souhaite vraiment avoir la première place. Alors, qu'on puisse essayer aussi, alors c'est un travail de chaque jour, mais de pouvoir vraiment lui laisser toute cette place, de ne pas laisser de cohabitation en nous, de pouvoir être libéré de tout. Parce que quand on voit finalement l'infini de son plan, l'infini de ce que Jésus a réalisé, eh bien, en le réalisant, on a envie qu'il habite complètement en nous et qu'il n'y ait que lui qui habite en nous. Ça, c'est Dieu en nous. Donc voilà, maintenant, Dieu habite en nous. Et puis Dieu habite aussi dans son Église. À travers nous qui formons l'Église, finalement, eh bien, Dieu habite l'Église. Et puis alors, je trouvais, en préparant le texte, j'ai trouvé une réflexion qui m'a interpellé souvent. Alors c'est une petite digression, là, mais par rapport aux différents projets qu'on a, etc., c'est qu'on se dit souvent, voilà, comment on va faire pour apporter plus de monde, plus de familles, etc. Et je pense que ça part d'un bon sentiment et c'est ce qu'il faut qu'on recherche. Mais avant cela, je pense qu'il faut attirer la présence de Dieu au milieu de l'Église, au milieu de nous, dans nos cœurs et au milieu de l'Église. Et alors les gens viendront. Et c'est comme pour nos vies, hein, finalement. C'est vraiment d'essayer que ce soit dans nos vies, dans nos églises, de laisser à Dieu cette première place. Et puis, finalement, ça, c'est sur la période que nous vivons actuellement, mais il y a une période à venir dont il nous est parlé. C'est finalement l'habitation finale, pourrait-on dire, en tout cas de ce qu'on en perçoit, de nouveau avec mes moyens limités. Mais c'est cette cité céleste, cette cité que Dieu nous prépare, dans laquelle le Seigneur est déjà, et dans laquelle nous vivrons de façon pleine et entière l'habitation et la présence de Dieu. Et là, je voulais juste, alors j'ai pas grand-chose que je veux détailler, mais je pense qu'en lisant juste quelques versets par rapport à cette cité céleste, je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires supplémentaires. Alors je vais reprendre simplement le verset qu'on avait vu en Apocalypse, au tout début. Donc l'habitation de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux. C'est ce qui nous est dit encore en Apocalypse 21:3. Ça se poursuit depuis le début, depuis Éden. Le tabernacle, le temple, Dieu qui habite en nous, Dieu habitera encore avec nous, mais de façon pleine et entière au ciel. Et puis dans l'Apocalypse, donc au verset suivant, dans l'Apocalypse 21, au verset 22 et 23, « Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. » Donc voilà, là c'est là où finalement on a l'impression, ça donne ce sentiment de plénitude. Il n'y a plus besoin de temple, il n'y a plus besoin quoi. Tout est réalisé, tout est accompli, tout est plein, tout est entier. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau est sa lampe. » Et puis ce qu'on voit avant, dans les versets avant, dans ce même chapitre de l'Apocalypse 21, donc l'habitation de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Donc on voit que ce sera un état céleste, qu'on a probablement de la peine aussi à imaginer, hein, mais que ça puisse en tout cas réchauffer et animer nos cœurs. Et puis ce qu'on voit, ce qui nous est dit alors, c'est dans un verset dans 1 Corinthiens 15, c'est que lorsque tout lui aura été soumis, donc c'est cet état de l'éternité hein, que nous vivrons avec lui, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc là, c'est l'accomplissement. Hein. Alors, pour revenir sur la terre, parce que c'est malgré là où nous sommes, malgré tout là où nous sommes, ce qui nous est dit malgré tout, c'est que nous y sommes déjà par l'esprit, par la foi, puisque Christ nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, et que nous n'oublions pas peut-être aussi dans nos vies, dans nos quotidiens, ben quelque part on partage déjà par la foi, hein, mais cette position que Christ nous a acquise auprès de lui dans le ciel. Alors, je vous propose de conclure. Donc, pour moi, ce qui me touche, ce qui me frappe, c'est finalement ce plan de Dieu, ce projet de Dieu qui est vraiment d'habiter avec les hommes et puis après de faire en sorte que l'homme habite avec lui dans le ciel et qui a été constant, finalement, sur tout ce que nous voyons, en tout cas tout ce que nous percevons. Et c'est ce qu'il a été prêt à consentir pour réaliser ce projet, ce plan-là, à travers l'œuvre de la croix. Et donc ça, c'est le point central, finalement, qui nous permet de jouir aujourd'hui de cet accès permanent à Dieu et puis d'avoir cette espérance d'habiter pour toujours et dès aujourd'hui avec lui. Et donc c'est grâce à ce sacrifice parfait dont on a dit quelques mots tout à l'heure que nous avons ce statut-là. Et quelque part, finalement, quand on voit toute cette œuvre, tout ce plan qui nous dépasse à bien des égards, eh bien, on n'a qu'une chose, c'est qu'effectivement, c'est que Dieu habite et nourrisse notre cœur. Et de chercher, comme il nous est dit aussi, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et j'aimerais conclure en lisant dans les Hébreux 10, les versets 16 à 21. C'est un passage où, tout d'un coup, il m'a semblé que tout finalement décrivait ce que... Quoi, résumé serait peut-être un peu limitatif, mais exprimer pleinement tout ce que Dieu avait réalisé. Et je vous propose qu'on le lise ensemble, donc c'est dans Hébreux 10, au verset 16. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, au lieu très saint. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps, la croix. De plus, nous avons un souverain prêtre, donc Jésus, établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter un chant. Alors peut-être la prochaine fois, on sera capable de le chanter ensemble, mais déjà l'écouter. Pour ceux qui le connaissent, vous pouvez aussi le chanter, je pense. Vous le connaissez peut-être dans d'autres versions. Et puis, qui nous parle finalement de la puissance de cette œuvre de Christ à la croix.